Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Vous savez, quand Jésus est venu, il est venu dans un pays qui était occupé. Est-ce que vous avez pris conscience de ça? Et qu'est-ce que les gens avaient en dehors des Romains et de la religion? Rien. Et ils avaient la preuve que ni la religion, ni les Romains ne pouvaient les sauver. Et c'est pour ça qu'ils couraient vers Jésus. Et nous sommes exactement dans la même période. Les amis, Dieu m'a demandé de prier tous les jours pour notre président. Mais ce n'est pas lui notre sauveur. Pourquoi est-ce qu'il faut prier tous les jours pour notre président? Pour pas qu'il devienne un antichrist. C'est facile pour lui aujourd'hui de devenir un antichrist. Il est là avec toutes ses solutions, il parcourt le monde. Et on l'écoute. Mais n'oublions jamais qu'il n'est pas notre sauveur. Nous devons prier pour lui pour que il fasse une place dans ce pays à l'évangile. Et que les médias parlent en tout cas autant de Jésus-Christ que de lui. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est important que les chrétiens se mettent en prière. Je ne dis pas qu'il doit faire moins de place, mais que en tout cas Jésus prenne de plus en plus de place dans ce pays. Et vous avez vu l'événement qui s'est passé avec Sœur Emmanuel. Combien les gens sont conscients que l'amour est la seule chose qui peut sauver le monde. Et moi j'aime beaucoup quand Jésus est venu vers Pierre trois fois. Trois fois il m'a dit, Pierre, m'aimes-tu? Mais si vous avez bien étudié, les deux premières fois, Jésus lui a dit, m'aimes-tu de l'amour de Dieu? Et Pierre, un homme brisé, a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais pas de l'amour de Dieu, d'un amour affectif, d'un amour humain. Et mes amis, après, le Seigneur a soufflé sur lui et il a reçu le Saint-Esprit. Et après, quelques jours plus tard, au jour de la Pentecôte, il a été rempli du Saint-Esprit. Il est écrit dans Romains 5:5 que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mes amis, le monde n'a pas besoin de notre amour affectif. Il a besoin de l'amour de Dieu. Et comme je l'ai dit hier soir, l'amour de Dieu, il n'y a que dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans la soumission à Dieu, qu'on peut le recevoir et en être rempli. Nous avons une opportunité aujourd'hui. Nous avons un monde qui est sans amour, qui sait très bien qu'il n'y a rien d'autre qui peut le sauver. Et ça peut être quelque chose de dangereux, parce qu'on peut être dans un monde aujourd'hui qui va être rempli de faux prophètes, qui vont amener des solutions, et en parlant d'un amour qui n'est pas l'amour de Dieu. Vous avez pour devoir aujourd'hui, plus que jamais, de laisser transparaître l'amour de Dieu de votre vie. C'est normal que nous ayons un amour affectueux. Moi j'aime les bisous, je suis dans une église italienne, voyez. Ils me prennent dans les bras, ils me disent je t'aime, ils me serrent. J'aime ça. C'est important l'amour de l'âme. Mais ce n'est pas l'amour qui peut sauver le monde. Il n'y a que l'amour de Dieu. Amen. On va prendre la parole de Dieu dans... Je vais vous parler de la formation de Pierre. Je me retrouve totalement dans Pierre. J'aurais bien voulu être un Paul. Parce que Paul a dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et s'il y a un homme qui se faisait violent, c'est bien lui. Mais dans mon caractère un peu... Je ressens plus à Pierre qu'à Paul. Je suis en admiration devant Paul, mais je suis plus un Pierre. Hein? Alors j'aime beaucoup cet homme, parce qu'il me déculpabilise. Vous savez, moi j'aime beaucoup la Bible, elle me déculpabilise. J'aime pas trop les livres parce qu'ils se la pètent dans les bouquins. On a l'impression qu'ils sont sortis de je sais pas où, qu'ils étaient parfaits. Non, ça c'est pas vrai, mon téléphone est éteint. C'est le réveil. Je me réveille. Cette nuit, il a sonné, alors je l'ai mis à midi exprès pour pas qu'il me laisse tranquille. Vous voyez, il est 11h, ça fait midi. Tu m'as complètement coupé, toi. Ah non, mais tu recommences pas, hein. Oh, c'est pas possible. Prenons la parole de Dieu. Dans Luc au chapitre 5. On va aller assez vite, hein, donc on ne va pas tout lire. Au verset 4, il est écrit, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître lui répondit, Simon, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ils le jetèrent et prirent tant de poissons que leur filet menaçait de se déchirer. Plus loin, il est écrit, en voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds du Seigneur et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pêcheur. » En effet, ils étaient saisis d'effroi avec ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Donc là, c'est son appel. Il rentre à l'école biblique. Et là, il est parfait. Vous allez voir que je me retrouve complètement, je me dis que ça me déculpe pas complètement, parce que le succès a été une catastrophe pour moi. Comme j'avais un témoignage dans les années 70, hein, tout le monde m'invitait pour rendre témoignage. Et quand j'étais qu'un pauvre type, eh ben je me la suis pété. Je me suis pris pour je ne sais pas qui. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, j'en ai ras-le-bol de donner mon témoignage, je vais écrire un livre. J'ai écrit un livre, mais ça fait l'effet contraire. Ça fait boule de neige. Le livre a fait encore plus de succès d'invitation. J'avais un an et demi d'invitation. J'avais un programme très chargé. J'avais une station de radio, j'avais une équipe de 9 personnes à plein temps, on était en porte-à-porte, on était... Les terroristes du Seigneur, les communistes, ils avaient pression, parce qu'il n'y avait pas un panneau d'affichage qui pouvait coller, on collait sur eux. On les décollait, on collait sur eux tout le temps. Jour et nuit, on était là. Je suis allé en Afrique, et j'ai été le témoin d'un grand réveil au Tchad. J'ai été à Bercy, Bercy le plus grand palais fermé de France. Et quelque part, j'ai complètement oublié que c'était que la grâce de Dieu. Et puis c'était que le Seigneur que les gens voulaient voir et entendre. Et après j'ai mangé de la vache enragée, j'ai bouffé de l'herbe. J'ai fait un peu comme Nebuchadnezzar, vous voyez. Et Dieu m'a repris. J'étais en Creuse, là, donc le pays de Bruno. J'étais pas en Creuse pour évangéliser, j'étais en Creuse, en plus à la souterraine, j'étais vraiment à râler-pâquerette. Hein. Et Dieu était là pour me dire, maintenant, panier, c'est fini de rigoler. Tu signes ou tu signes pas? Et moi, je voulais pas signer. Je voulais bien donner 90% de ma vie, 95%, mais 100, je voulais pas. Et pendant 2 années, j'ai vraiment passé par des temps très difficiles. Mais c'est dans ces moments-là que j'ai appris vraiment que la grâce de Dieu existait. Comme je disais à une sœur ce matin, j'ai arrêté de prêcher un petit temps et Dieu m'a conduit dans un endroit, dans une église. Et j'ai reçu une offrande sans prêcher, sans rien faire. Je croyais qu'il n'y avait personne. Une offrande de 8500 francs que je n'avais jamais reçue en prêchant. Et Dieu était en train de me dire, si tu existes, c'est grâce à moi. Et quand je lis Pierre, je me retrouve complètement. Pierre, au départ, il était humble. Il était humble. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est que quand on entend la voix de Dieu, on fait tout simplement ce que Dieu nous demande. Quand il lui a dit, jette ton filet, Pierre n'a pas commencé à dire, bon, écoute Jésus, assis-toi, hein. Moi, de père en fils, on est pêcheur. Je sais très bien qu'il n'y a rien. Non, pas du tout. Il était à l'écoute. L'homme humble, la femme humble, elle mange les paroles du Seigneur. Elle est à l'écoute. Si tu es là et tu dis, ouais, pff, on n'a rien à foutre de ce qu'il dit, de toute façon, je sais tout, eh bien, tu es exactement comme moi quand je me la pétais. Eh, bonjour la galère. C'est terrible d'être arrivé à un stade de sa vie où on croit qu'on n'a plus rien à apprendre des autres. On en arrive même à mépriser les autres. Quand ils passent par des difficultés, par des divorces et tout ça, et ben avec des yaka, taka, il faut que... Et on est sec. Mon cœur était sec, complètement sec. Et j'ai dû dire au Seigneur, Seigneur, je te demande de la compassion. J'ai plus de compassion. Tout était méthodique. Je priais pour les gens. J'avais rien. J'étais sec, complètement sec, vide. Eh bien, je peux vous assurer que il y a beaucoup plus de serviteurs de Dieu que vous le croyez qui sont comme ça. Et c'est désolant. C'est vraiment désolant. Mais là, notre Pierre, il est humble. Il dit, Seigneur, on a travaillé toute la nuit, mais c'est toi le patron. Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je ne crois pas, je ne sais pas, mais sur ta parole, je jette le filet. Je fais ce que tu me dis. Les amis, la vie chrétienne, ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu entends sa voix, tu ne discutes pas, tu ne cherches pas à comprendre, tu fais. Quand Dieu m'a dit, je te donne une maison, c'était impossible, je n'avais pas de fiche de paye, toutes les banques étaient fermées, c'était impossible. Mais quand Dieu dit, c'est possible. L'impossible devient possible. Les amis, le Christ habite en chacun d'entre vous. Et comme rien n'est impossible à Dieu, rien ne vous est impossible. Rien. Faites sauter toutes les barrières d'impossibilité, toutes les prisons mentales. Rien, rien, rien n'est impossible. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. Mais ce n'est pas parce qu'il fait quelque chose avec toi, quand il veut, que tu deviens meilleur pour autant. Tes œuvres ne sont pas la preuve que tu es quelqu'un. Mais simplement que tu es humble. Et l'humilité, d'après le dictionnaire, c'est une juste estime de soi. L'orgueil, c'est une trop haute estime de soi. Si Pierre avait été orgueilleux, il aurait dit non, je ne jetterai pas le filet. T'as beau être le maître, t'as beau être le patron, je suis un pro dans ce domaine-là, et il est hors de question que je te suis sur ce terrain-là. Et mes amis, nous passons tous par des crises d'orgueil. Il y a des endroits où Dieu nous a parlé. Nous savons exactement ce qu'il nous a dit, mais on ne veut pas le faire. Alors on se raconte plein d'histoires. C'est pas possible, c'est pas à moi qu'il a parlé, ça ne peut pas se faire au travers de moi. On discute. Et rien qui change. L'humilité fait que, le plus rapidement possible, vous dites, oui Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est si simple? Et pourquoi est-ce qu'on est si compliqué? Pourquoi j'ai bradé pendant 30 ans? Pourquoi est-ce que j'ai fait des œuvres? Dieu ne m'a jamais demandé d'ouvrir une station de radio. Jamais. Jamais. C'était la mode. Dieu ne m'a jamais demandé d'ouvrir un café-bar. J'en ai ouvert 5. C'était la mode. Et je disais, Dieu, regarde. J'ai reçu l'argent pour la radio. Vous savez, j'avais un don pour recevoir l'argent. Les millions rentraient. C'était facile. Mais ce n'est pas parce que les millions rentrent que c'est la volonté de Dieu. Dans le café-bar, il y avait 300 personnes par samedi. Toutes les preuves étaient là, sauf la paix. Mes amis, il n'y a qu'une seule preuve, c'est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il y a des gens, ils ont un succès phénoménal, mais ils sont complètement stressés. Parce que c'est eux qui mènent leur barque. C'est leurs affaires à eux. Rentrez pas dans vos affaires. Rentrez dans les affaires de Dieu. Et vous serez cool et détendu. On vous dira, t'es le roi des cons. On vous dira, t'es le meilleur. On s'en fout complètement. Ça nous passe par-dessus comme sur les plumes d'un canard. Voyez ? Complètement. Mais quand on est dans son œuvre, on est à la recherche d'admirateurs. Et quand quelqu'un nous dit, « Oh, c'est bien ce que tu fais !» On a besoin de cocorico. Mes amis, il n'y a rien de pire que de vivre une vie comme ça. J'en ai vu des centaines de gens qui, en apparence, avaient tout le succès possible et inimaginable. Nous fréquentons toutes sortes de gens. Nous fréquentons des clodos sur le bord de la route et nous fréquentons des gens dans des palais. Voyez ? Mais franchement, leur palais, j'en veux pas. Quand je vois la vie pourrie qu'ils ont pour avoir leur palais, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, Satan a dit, si tu te prosternes et m'adores, je donnerai toutes les richesses à la terre. Moi, la vie de Johnny Hallyday ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Il me fait mal, il me fait pitié, c'est vraiment une pauvre cloche. Il s'est fait des liftings, il fait de la muscu. Mais moi je suis un papy, j'ai même pas encore son âge, mais je me réjouis de vieillir parce que chaque année, je suis un peu moins con sur la terre. Quand j'étais jeune, j'avais 12 ans, j'étais dans les bistrots, je me pétais la tête avec des calvas et toutes ces choses-là, et j'écoutais les gars de mon âge aujourd'hui. « Ouais, si j'étais président !» Enfin, ils faisaient tous le monde. Hein. Et bien j'ai dit, moi je sais exactement que je ne veux pas devenir comme ça. Et j'ai passé toute ma vie à dire, « Seigneur, que je ne sois jamais un vieux détritus, un vieux abruti. Je veux, Seigneur, que dans ma vieillesse, ma vie serve à quelque chose. Je veux être un parfum de bonne odeur. Je veux être abordable. Je veux être croquable. Je veux pas de garde-corps. Je veux qu'on puisse me prendre dans les bras. Je veux qu'on me tutoie. Je veux qu'on m'embrasse. Je veux vivre la proximité avec les gens et avec Dieu. Mais ces gens-là, ils sont dans des prisons mentales. Ils sont dans des prisons mentales. Ils peuvent plus sortir. Je me disais toujours, pourquoi est-ce que les vieux, il y en a très peu qui se convertissent. Ils peuvent plus, ils peuvent presque plus se convertir. À moins d'un miracle comme mon père, que ma femme a eu une parole de Dieu, mais ils sont emprisonnés dans des prisons. Et ça me fait penser à un film que j'avais vu avec les Charlots, je ne sais pas si vous l'avez vu, les Charlots en Espagne. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont en train de monter des maisons, ils sont tellement... que d'un seul coup, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de fenêtre, pas de porte, ils étaient coincés dans la maison qu'ils avaient fait. Vous voyez ? Eh bien, une partie de l'humanité vit ça. Ils sont en train de taper dans les murs. Ils ne peuvent plus sortir. Vous voyez ? Mais là, mon Pierre, il a fait son entrée à l'école biblique 10 sur 10. Le problème, c'est que ça ne va pas durer. On va prendre un autre texte. Vous connaissez tous. Matthieu 26, verset 30. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque, ensuite ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. » En effet, il est écrit dans Zacharie 13, 7, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres, vous entendez, hein ?» Si, même si tous les autres, ça veut dire, je suis meilleur que tout le monde, sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne serai pas. Jésus n'est pas du tout en colère. Jésus reprit, vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, et dans l'autre version c'est marqué deux fois, tu m'auras renié trois fois. Pierre réaffirma, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et la phrase la plus dure de tout le texte, et tous les disciples dirent la même chose. Mes amis, Entre-temps, Pierre était devenu un leader, une figure d'autorité. Et il n'y a rien de pire qu'être une mauvaise figure d'autorité. Parce que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, quand vous êtes une figure d'autorité, vous voyez, dans ce monde, le jour où George Michael a décidé de se mettre une croix ici et de se laisser la barbe, tous les minots du de la Terre se sont mis à faire ça. Le jour que Machine Spears a décidé quelque chose, vous voyez, mais c'est comme ça. Une figure d'autorité, c'est quelqu'un qui est suivi. Et dans l'Église, c'est la même chose. On vit de mode, on copie, on... Alors quand on copie quelqu'un qui ressemble au Seigneur, ça va. Paul a dit, soyez mes imitateurs, car moi, je le suis de Christ. Là, il n'y a pas de problème. Mais être une figure d'autorité pour dire des grosses bêtises et faire des grosses bêtises, c'est une cata. Et mes amis, ça c'est une chose que le chrétien ne veut pas prendre cette responsabilité. J'ai fait partie de ces gens qui se disaient, mais je suis libre, je fais ce que je veux. J'ai jamais accepté que ce que je faisais, d'autres allaient le faire. Et je me disais, mais ils ne sont pas obligés de me suivre. C'est comme ça. Tu n'as pas le droit, écoute-moi bien, tu n'as pas le droit d'être un faux témoin. Parce que automatiquement, tu vas entraîner à ta suite des gens. Si tu t'es libre et tout seul, que tu te casses la bobine, que tu ailles en enfer, ça te regarde. Mais le problème, c'est que tu vas entraîner à ta suite des gens. Je suis étonné quand des apôtres, hein, dont tu sors, hein, j'ai connu avant qu'ils rentrent dans son trip, et vous voyez, et ben, les gens l'ont suivi. Il y a un homme qui s'appelait William Branham, un des plus grands prophètes du XXe siècle. J'ai lu ses livres, je suis époustouflé devant William Branham. C'est pour moi le plus grand serviteur de Dieu qu'il y ait eu au XXe siècle. Cet homme-là, c'était un visionnaire. Il voyait tout comme à la télévision. Un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir. Il dit, ouais, monsieur William Branham, vous êtes un faux prophète. William Branham, il dit, bon, écoutez-vous, taisez-vous, hein, parce que je vous ai vu sortir d'une chambre à toute vitesse en passant par la fenêtre, hein, et c'était pas votre chambre, c'était pas votre fenêtre, c'était pas votre femme, hein, et vous avez eu de la chance parce que le mec qui rentrait, est rentré avec un pistolet pour vous tuer. Et je vais même vous dire une chose, la maison, elle s'appelait telle rue, elle était telle couleur et tout ça. Un homme qui avait un ministère époustouflant, extraordinaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a créé une secte qui s'appelle les Branhamistes. Et peut-être qu'en France, il n'y en a pas beaucoup, mais en Afrique, je suis allé prêcher chez les Branhamistes. Ils sont des milliers et des milliers. Il a entraîné les gens à sa suite. Aujourd'hui, il y a les méthodistes, aujourd'hui, il y a les ceci, il y a les cela. Alors, vous voyez, Martin Luther était contre les Juifs, et ben on a Hitler a pris ça pour former son truc. Nous n'avons pas le droit de raconter des histoires. Il faut mieux se la fermer que de dire des choses qu'on ne sait pas ou qu'on n'est pas sûr. Moi, j'ai peur des gens qui commencent à me dire aujourd'hui, oui, dans l'Apocalypse, il est écrit, faites attention. Si vraiment Dieu ne vous a pas parlé, si ce n'est pas une conviction, hein, vous allez être écouté. Parce que les gens vivent dans une telle crainte aujourd'hui qu'ils sont à la recherche des prophètes qui ont reçu la révélation de l'Apocalypse. On suit. C'est comme ça. Alors que Jésus a dit, celui qui écoute ma voix, c'est moi qui le suis. Parce que ma voix leur est devenue familière. Et c'est ce que j'ai prêché hier soir. Notre problème, à nous chrétiens d'aujourd'hui, c'est que la voix du Seigneur ne nous est pas familière. Voilà, le trois quarts de temps, les gens me disent, mais comment vous avez entendu la voix de Dieu pour savoir avec quelle femme vous mariez, avec, dans quelle ville habiter, quelle voiture acheter, quelle maison acheter? Mais comment? Moi, je ne parle jamais! Mais si Dieu vous parle! Vous savez pourquoi vous n'entendez pas? Parce que vous avez vos idées. Quand le Seigneur a dit à Pierre, écoutez-moi mon grand, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Pierre avait sa petite idée. Donc, il n'y a pas plus sourd Mais celui qui ne veut pas entendre. Il n'entendait pas. Pourtant, Jésus lui disait. Et Jésus lui a répété. Et Jésus lui a donné des détails. Il a dit, je vais te dire exactement comment ça va se passer. Non. Moi, jamais, je ne te renierai. Mes amis, c'était un homme merveilleux. Il avait sa petite idée. Et aujourd'hui, si votre cœur n'est pas ouvert à entendre sa voix, parce que vous avez votre petite idée va vous emmener dans une impasse. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'avoir sa petite idée. C'est le temps, comme a dit notre frère et comme a dit le prophète, d'être unis, d'être ensemble, de se réunir sur ce qu'on est d'accord. Les temps sont dans l'horloge de Dieu. Quelque chose de l'horloge de Dieu a commencé à se passer en 2001, quand les avions se sont crachés dans les tours. Et depuis 2001, l'horloge de Dieu est en route. C'est le temps d'entendre sa voix. C'est pas le temps d'avoir notre petite idée, notre petit truc. Jean-Michel Panier a perdu des dizaines d'années parce qu'il avait sa petite idée. Mais en réalité, sa petite idée passait à côté de la croix et de la sanctification. Parce que c'est ça le problème. Je vais réussir sans crever. Arrête de croire des choses comme ça. C'est ta peau qu'il faut donner. J'ai entendu aussi une prière. C'est pas quelque chose de toi que Dieu veut. C'est toi. Toi. Il t'appelle non pas à donner ta vie, mais à te donner toi. C'est le moment. Mais si t'as ta petite idée, ah oui, bah, les gens ils vont à l'église. Oh bah tout ce que le pasteur il peut dire, ça les intéresse pas parce qu'ils ont déjà leur petit truc. Ils ont déjà leur petit monde. Alors imaginez qu'on soit 50 ici, et puis dans les 50, il y en a 10 qui aient déjà leur petite idée. Ben, on aura une grosse division. Hein. Alors que l'union fait la force. Il est prouvé à la tour de Babel que quand tous les hommes s'unissent, même Dieu ne peut rien faire. C'est le temps de s'unir, d'avoir une idée commune. Parce que Dieu ne raconte pas une histoire à l'un et une histoire à l'autre. Pierre, cette nuit même, quand le coq aura chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. Pierre n'a pas entendu. Et il y a pire que ça. Si vous lisez les textes avant, Dieu avait déjà parlé à Pierre. Jésus avait déjà parlé à Pierre. Il avait dit, Satan t'a réclamé. C'est là qu'il aura dit, qu'est-ce qu'il raconte là? Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi que quand tu te relèveras, quand tu reviendras, ça veut dire, tu vas te casser la gueule. Ça veut dire, tu vas tout laisser tomber. Quand tu seras revenu, tu vas faire mira tes frères. Et quand vous lisez les épîtres de Pierre, on voit un Pierre qui est revenu et qui a fermé ses frères. Le Pierre, les épîtres de Pierre, n'a rien à voir avec cet orgueilleux ici qui n'entend absolument pas. Et vous relisez les épîtres de Pierre, vous allez avoir tous les conseils. Approche-toi de Dieu, laisse ta foi se purifier comme dans le feu, comme l'or et l'argent sont purifiés. Un Pierre qui a compris. Mais là, il n'a rien compris. Il n'entend pas. Moi, je suis convaincu que on devrait, de temps en temps, à la fin de la réunion, donner une feuille à chacun et lui dire, écris ce que tu as compris. On sera étonné. J'ai fait une expérience une fois. Je suis allé deux fois, dans la même église, à un an d'intervalle, j'ai donné le même message. La deuxième fois, ils m'ont dit, ah, c'était bien. J'ai dit, oui, mais je les ai donnés il y a un an. Ah bon? Tu t'es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr. On est là, puis on pense à tout un tas d'autres choses. Il suffit qu'il y ait un mot qui vous fasse décoller, puis hop, le voilà parti. Vous voyez? Mes amis, la première chose pour entendre sa voix, c'est être attentif. Il faut être attentif. Il y a une sœur qui m'a dit, j'en ai marre, ça fait 15 ans que je suis converti, et je me rappelle tous les temps où j'amenais des gens à Christ, le temps où j'encourageais les gens, maintenant je ne fais plus rien, je suis complètement centré sur moi-même. Elle a même fait un séjour à l'asile psychiatrique, elle était enfermée, et elle est sortie par la grâce de Dieu. J'ai dit, ma sœur, j'ai qu'un seul secret à te donner. Tu prends 2 heures tous les jours, tu fermes ton téléphone, tu fermes la porte de ta chambre, tu prends ta Bible, un crayon, un papier, tu interdis à qui que ce soit de te parler, de te téléphoner, de quoi que ce soit, tu n'existes pas pendant ces 2 heures tous les jours. Et tu verras, il ne se passera pas 3 mois que ta vie va changer. Et le problème, c'est que... qui va faire ça? Les gens savent ce qu'il faut faire. Vous voyez? Tous les livres que j'ai lus des gens qui ont réussi, à partir de Smith Wigglesworth jusqu'à ceux d'aujourd'hui, c'est des gens qui priaient beaucoup en langue. Quand je demande aux chrétiens, combien d'heures tu pries en langue? 10 heures? Quoi vous dites 10 heures? Non, je jargouille bien de temps en temps 2-3 mots, mais pas 10 heures. J'ai pas le temps. Mais si t'as le temps! Quand tu conduis ta voiture, quand tu balayes ta maison, quand tu fais ta soupe, tout ça, t'as le temps! Il faut recharger ses batteries! On se fait voler. Parce qu'on ne croit pas qu'on va échouer. Il est là notre problème. L'orgueil, c'est une trop haute estime de soi. L'orgueil, c'est croire que même en n'écoutant pas, même en n'obéissant pas, on va réussir. Parce que franchement, si on était convaincu qu'en n'écoutant pas et qu'en étant orgueilleux, on va se casser la figure, on ferait autrement. On n'est pas plus bête, on n'est pas des masos, hein, on n'est pas en train de se falafeler. Je suis méchant. On veut tous réussir. On ne s'est pas converti pour échouer. Moi, quand je me suis converti, c'est parce que j'avais plus rien à faire dans ce monde. Ce monde ne m'apportait rien. Et Dieu m'a donné une seconde chance et une troisième chance. Mais la chance de quoi? La chance d'être heureux. Et quand il dit heureux serez-vous lorsque vous serez persécuté, heureux serez-vous. Oui, alors, je ne suis pas d'accord. Je veux bien être heureux, mais pas de la persécution. Et je n'écoutais pas. Je prenais ma Bible et je prenais que ce qui m'intéressait. Alors bien sûr, quand il disait, qu'il parlait de celui qui sème, il moissonne, je dis, moi là j'ai semé, hein. J'ai semé, on a de l'argent pour l'Afrique. Alors, voyez, intéressé. Arrêtez cette vie chrétienne intéressée. La vie chrétienne, c'est pas un, y a pas, et le seul intérêt de la vie chrétienne, c'est que Christ vive en vous. C'est tout. C'est le seul intérêt. Mais aujourd'hui, on a créé des séminaires de guérison intérieure, des séminaires de ceci et des séminaires de cela. Et le but de ces séminaires, c'est se sentir mieux. La seule façon de te sentir mieux, mon ami, c'est d'être dans la présence de Dieu. Parce que c'est l'esprit, l'onction de Dieu qui te fait du bien. Parce que l'onction, c'est l'amour. L'amour de Dieu a été déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Le seul qui peut te faire du bien, c'est Dieu. C'est pas un séminaire. Et avec les époques, on a eu des séminaires de délivrance, des séminaires de guérison intérieure, des séminaires de louange, des séminaires de ceci. Et après, on est des adorateurs de la louange, des adorateurs de ceci. Et oui, on devient des obsédés de quelque chose. Je ne suis pas en train de critiquer, je suis passé par toutes les phases. Dès qu'il y avait une occasion d'être mieux, hop, j'y allais. Dès qu'il y avait une occasion de réussir, hop, j'y allais. Je suis allé partout, je suis allé à Toronto, partout, j'ai couru le monde. Mes amis, si tu entends sa voix, si tu écoutes sa voix et si tu fais sa volonté, tu seras heureux. Et il peut te parler n'importe quand. Kenneth Hagin dit dans ses livres que c'est toujours au moment qu'il ne s'attendait pas que Dieu lui a parlé. J'ai passé par des longs jeûnes de 21 jours, de 40 jours et tout, mais jamais Dieu m'a parlé en ces moments-là. C'est toujours à des moments où on s'attend le moins. Des fois, on ne dort pas la nuit, tac, on a une petite lumière qui arrive, on a une idée, et on n'arrive plus à dormir. Et ça est en train de travailler, c'est en train de travailler. Dieu est en train de nous parler et de faire quelque chose. Mes amis, c'est ça qu'il faut. Cette relation avec votre Créateur, avec votre Seigneur, qui veut vous donner des idées, qui veut vous dire pourquoi vous êtes sur la terre, qui veut vous dire comment être heureux, comment réussir, qu'est-ce que vous allez devenir. Mais là, Pierre, il n'entend rien. Il n'entend rien parce que il a chassé des démons, il a guéri des malades, il a eu du succès. Et moi, je l'aime, ce Pierre, parce que j'étais comme ça. Le succès a été pour moi un échec. quand j'étais dans l'échec, eh ben, j'avais rien. Donc j'étais obligé de dire, oh, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Et quand j'avais du succès, bon Seigneur, écoute, j'ai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps pour ma femme, j'ai pas le temps pour mes enfants, j'ai pas le temps pour toi. Je suis très, 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 très occupé. Regarde mon planning, j'ai un an et demi de je suis invité partout. Mais je suis quelqu'un de connu, je suis quelqu'un. J'ai pas le temps. Ah bon, bah t'as pas le temps. Salut. Et moi, c'est ça que j'aime chez Jésus. Il n'a pas pris Pierre, il ne l'a pas secoué. Pourtant, je t'avais dit que Satan, il allait te cribler comme le froment. Mais Pierre, tu vas m'écouter. Non, 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 pas du tout. Il va leur ramasser la petite cuillère. Pauvre Pierre. Il va pleurer amèrement, le pauvre Pierre. Parce qu'il aura fait les plus grosses bêtises de la terre. Hein? Je ne connais pas cet homme, je ne connais pas cet homme. Devant des petites servantes. Et puis après, il veut assassiner un mec. Et les gens qui croient qu'il a dit au gars, mets-toi l'oreille bien, bouge pas, je vais juste te couper l'oreille, juste pour t'impressionner. Pas du tout! Il voulait lui couper la tête! Il l'a loupé! C'était plus facile à Jésus de recoller une oreille qu'une tête! Mes amis, vous riez. Mais si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, si vous ne faites pas ce qu'il veut, ben vous allez couper des têtes. Mais ça encore, c'est pas grave. Pour moi, je vous dis, plus grave, c'est tous dire la même chose. Il a réussi à monopoliser tout le monde. Vous vous rendez compte? Il a réussi à détourner tous les disciples de la pensée de Dieu. Mais quand on se dit, mais on n'y croit pas. Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'un pasteur, c'est pas possible qu'une personne, hein, il peut avoir un tel charisme et un tel pouvoir que tout le monde va le suivre, alors que tout le monde a le Saint-Esprit, tout le monde a la Bible. Eh bien si. Eh bien si. Si. Il y a plus de sectes en France que de vrais serviteurs de Dieu. Et par la grâce de Dieu, grâce à l'échec dans lequel nous vivons tous aujourd'hui, c'est une bénédiction parce que nous allons tous nous repentir. Passer par une profonde repentance. Ça commence par la maison de Dieu. La repentance vient sur le monde. Quand je vois les Américains qui disent qu'ils veulent voter pour tel président parce qu'il est chrétien et qu'ils voulaient voir qu'une mitraillette entre tirer sur je ne sais pas quoi, ça ne va pas la tête. Ça ne va pas la tête. On ne peut pas être chrétien et tirer qu'une mitraillette en disant on est dans un pays libre, chacun a le droit de se défendre. Non! On n'est pas souvent ces testaments, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Je suis étonné comment les hommes politiques sont devenus des vedettes. Et il suffit qu'ils se mettent à parler, et tout le monde, d'un seul coup, se met à les encenser. Je vais vous demander une chose. Maintenant, je vais passer dans toutes les églises, je vais demander une seule chose. Pas de l'argent, une seule chose. Je cherche dans chaque église des gens qui veulent prier tous les jours, pour Daniel et moi, tous les jours. Ne levez pas la main, engagez-vous devant Dieu, mais j'ai besoin, nous avons besoin, pour ne pas se la péter, pour ne pas se faire récupérer, nous avons besoin de rester humbles, et pour rester humbles, parce que nous savons que la chair est faible, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui prient pour nous, pas pour dire, « Oh Seigneur, bénis-le, élève-le, ouvre-lui toutes les portes !» Non, 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 c'est pas de cette prière-là que j'ai besoin. Seigneur, garde-le dans ta présence. Garde-le tout petit devant ta face. Garde-le dans l'humilité. Garde-le comme tu le veux. Je ne veux pas recommencer les mêmes bêtises que j'ai faites. Je ne veux pas retourner au même résultat. Je veux que les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans qu'il me reste à vivre, je sois une bénédiction. Parce que je ne veux pas que les gens me suivent, mais qu'ils suivent le Seigneur. Amen. John Beaver dit, il a appris à vivre avec les louanges, les applaudissements des gens, mais à chaque fois qu'il les entend, il dit, Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. John Beaver écrit, je suis le premier lecteur de mes livres. Vous savez, à l'école, son problème, c'était la rédaction. Il était nul pour faire des lettres. Et Dieu lui a dit, tu vas écrire des livres. Il a dit, non, je ne suis pas possible, je ne suis pas capable. Tout est possible à ceux qui croient. Et tout est possible à Dieu. Deux personnes des États-Unis, de deux coins différents, qui ne se connaissaient pas, qui ne le connaissaient pas, nous dit, John Beaver, nous te parlons de la part du Seigneur, Dieu te demande d'écrire des livres. Et si tu ne le fais pas, Dieu prendra quelqu'un d'autre. Et John Bevere, quand il écrit un livre, il ne sait pas ce qu'il va écrire. Comme moi, quand je prêche, je ne sais pas ce que je vais prêcher. Mais à la fin, il lit ses livres, il est étonné de ce qu'il a écrit, parce que ce n'est pas son œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez ? Nous avons besoin d'entendre et de lire ce qui vient de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est Dieu que nous voulons entendre. C'est Dieu que nous voulons suivre. Et nous avons besoin, nous les serviteurs de Dieu, qu'on s'engage dans la prière pour qu'on arrête de se la péter, qu'on arrête de raconter des histoires aux gens, de faire croire qu'on est des cracks, qu'on est les meilleurs. Dieu a choisi les choses folles du monde. Ah, si Dieu a élevé quelqu'un, c'est parce que c'était un plouc. Encore quelqu'un dit, je suis bas plus 10, c'est grâce à ça que je suis élevé, maman pauvre là, attends la descente, elle va être terrible. T'es pas élevé parce que t'es bac plus 10. Je dis ça pourquoi? Parce que la première chose qu'on m'a dit, t'as pas le bac. J'étais comme ça, avec des cheveux longs, des poules. J'ai dit, voilà, Dieu m'a parlé, je vais servir le Seigneur. Ah, non, impossible. J'ai dit, pourquoi? T'as pas le bac. J'ai pas le bac, mais j'ai le panier. Quand même. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais écoutez, les gens parlaient, écoutez, la télévision, les publicités, le mot panier est beaucoup plus souvent cité que bac. Et je suis très important, parce que dans l'église, on loue le Seigneur et on passe le panier. Bon, je sais que dans les assemblées de papa, on met une boîte souvent. Mais, voilà. Ce qui est important, c'est pas que tu aies le bac ou le panier, c'est Christ en toi. Alléluia. Et merci Seigneur, parce que ce chemin-là, il est normal. Quelqu'un dirait, on ne comprend pas, il a commencé, il était humble, il servait le Seigneur, ça marchait bien, qu'est-ce qui lui est arrivé en cours de route, il s'est cassé la figure. Ça fait partie du programme. Regardez, Moïse, je suis le sauveur, et après 40 ans le désert. Regardez Joseph. Ah, vous allez vous prosterner devant moi. Ah, je l'ai vu, j'ai eu une vision. Tout le monde là. Tchababa. En prison. Pendant des années. Le désert. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Et il n'a pas été poussé, il a été jeté. Le vrai mot c'est jeté au désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Nous passons par le feu. Passons par l'épreuve et toutes les scories. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu doit disparaître. Pour que quand Dieu commence à nous utiliser, nous soyons libérés de nous-mêmes. Parce que notre ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. J'étais mon ennemi. Et Samy, il n'y a pas de vedette. Dans les temps qui viennent, le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Et c'est quoi un témoin? Quand on le voit, on voit l'amour de Dieu. Si on voit un caractériel, vous voyez, il n'est pas un témoin. Ou pas encore. Il est sur le chemin. Je suis un caractériel en voie de guérison. Alléluia. Donc chaque année qui passe, je me réjouis. Je réjouis d'avoir 70 ans. Je me dis, oh, comment je vais être bien. Les gens ne veulent pas vieillir, ils font des liftings. Mais moi, je me réjouis.